merci beaucoup, c'était passionnant. J'imagine que, enfin, j'espère que ça suscite des questions parmi vous. Enfin, en tout cas, les deux, la présentation de ton parcours et après le dispositif, hein, ça fait écho à plein de discussions qu'on a eues les uns les autres, notamment au début. Et je pense que ça a parlé à plusieurs personnes ici. Est-ce que, enfin, moi j'ai une ou deux questions, mais peut-être que vous avez envie de revenir sur un point.
Une chose très pratique sur la conférence gesticulée. Est-ce que tu t'es lancé sur la scène et donc après, voilà, tu as fait. Qu'est-ce qui fait une conférence gesticulée? J'en ai déjà vu, je me suis demandé si il y avait dans les cours d'éducation populaire des formations, entre guillemets, de conférences gesticulées, où c'était vraiment l'idée de dire on a une carte blanche et c'est la personne qui fait les conférences qui donne forme en fait à sa gesticulation.
C'est le gesticulant qui va choisir sa forme, mais dans les formations, il y a des outils d'éducation populaire qui sont donc tout le temps utilisés. Il y a un outil qui s'appelle Petite Histoire, Grande Histoire. Donc, l'intérêt de la formation, c'est qu'on est en collectif. C'est-à-dire que c'est un objet donc, autobiographique, ultra subjectif, mais l'écriture, c'est une formation d'écriture. C'est pas une formation de théâtre. Donc on ressort de là avec un objet écrit. L'écriture est collective quand même, puisque tous ces outils sont collectifs. Donc, petite histoire, grande histoire, c'est tout simplement une frise qu'on va mettre au mur et que vous pourriez faire, hein, même entre doctorants, c'est assez intéressant. Et vous choisissez déjà des dates importantes dans votre vie, une trentaine, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et à chaque année, chaque date, vous allez décrire un événement important dans votre vie, un événement politiquement important dans votre vie, ou effectivement. Et puis, un équivalent dans la grande histoire aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la grande histoire? Et tout le monde met sur la frise les événements, grande histoire et petite histoire personnelle, donc à la fin, en expliquant pourquoi on a choisi cette date, pourquoi. Donc à la fin, on a une frise. Donc ça, c'est déjà un travail autobiographique sur des événements importants. Et souvent, il y a des liens aussi. Hein. Des fois, c'est l'exil. Des fois, c'est une émotion politique parce que voilà, c'est la première manif. Il y a toutes sortes de liens entre la petite histoire et la grande histoire. Il y a plusieurs outils. Hein, il y a des outils qui sont proches aussi de nos outils à nous. Hein. Il y a le groupe d'interviews réciproques, ça s'appelle. Donc, en gros, on fait des entretiens réciproques, récits de vie notamment, mais ça peut être aussi sur des questions plus précises qu'on a définies en amont. Et donc on va s'écouter, donc il y a toute une organisation à trois, avec celui qui pose les questions, celui qui parle et celui qui observe l'interaction. Et après ça tourne. Voilà, ça. Et puis tous les outils d'éducation populaire comme le CIRCEPT, la circonférence du concept, que moi je fais quand je donne des cours à la fac par exemple, c'est super. Vous prenez un concept et vous donnez des post-it, trois post-it à chacun, et les gens doivent mettre un mot qui pour eux ont un lien avec ce concept ou qui va le définir. Et donc chaque personne va poser son mot en expliquant pourquoi il met ce mot-là, et on va faire une espèce de circonférence autour du concept en montrant les antagonismes, en regroupant des mots entre eux, en les déplaçant. Donc on va définir un concept comme ça, de manière participative. Voilà, il y a ça aussi comme outil qui aide aussi à définir, à expliquer, à transmettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié. Bon voilà, il y a l'arpentage. Alors ça, l'arpentage, moi je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça entre doctorants? Après, je sais pourquoi on n'a pas fait, mais... L'arpentage, vous voyez ce que c'est, donc l'arpentage, ça vient des mouvements ouvriers, en fait. À l'époque, il y a des ouvriers qui s'organisaient, même ça c'est le 19e, hein, le 20e, qui s'organisaient pour lire Le Capital de Marx. Et en fait, la méthode, c'est de partager le livre, de le diviser en nombre de lecteurs. Donc chacun lit une partie, et ensuite on prend un bon moment pour restituer le livre à plusieurs. C'est une technique qu'on utilise beaucoup dans les réseaux d'éducation populaire. Pourquoi ? Bah, pour lire des livres gros, pour lire des livres complexes aussi, pour partager la connaissance, pour débattre autour d'un livre, c'est-à-dire pas seulement sur son contenu, mais sur l'histoire de ce livre, cet auteur, débattre de la lecture en elle-même, pourquoi c'est difficile, pourquoi il écrit comme ça, ce con, il fait chier, c'est hyper compliqué. Enfin, nous, par exemple, avec le TAN, on s'est fait des arpentages de Foucault. Voilà. Et je me souviens d'arpentages incroyables, les gens pétaient les plombs en disant « Mais pourquoi il écrit comme ça, ça me rend fou ?» Et puis celui d'après qui disait « Ah non, moi je trouvais ça cool. » Et du coup, bon, on s'explique, on faisait des schémas, on, voilà, c'était... Et c'est un moment assez jouissif, la restitution. C'est très long par contre, c'est-à-dire qu'on gagne un peu de temps, mais ça prend du temps aussi de faire ce moment collectif de restitution, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire on repart avec une vraie assimilation des connaissances qu'il y a dans le livre, avec en plus une critique de ce qui est écrit, hein, on ne va pas l'avaler comme ça, donc c'est vraiment passionnant. Je sais pourquoi on ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une individualisation de la recherche énorme. Mmh. Il y a une compétition aussi, on n'en parle pas trop. Nous, on ne ressentait pas trop comme ça, je pense, en termes de compétition, mais c'est quand même ça qui se passe. En tout cas, c'est très, très individualisé. Et quand j'ai des étudiants, je donne des cours, je fais l'arpentage avec eux. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, c'était les premières années, j'ai pris un livre et je l'ai défait, quoi. Hein. Et c'est comme si j'avais égorgé un poulet en cours, quoi. C'était « Mais madame, vous allez déchirer le livre ? Mais madame, vous n'allez pas faire ça ?» Donc il y a aussi une sorte de désacralisation du bouquin. Hein. C'est « Bah non, mais je ne le déchire pas, j'enlève la reliure. » Ils se sont cotisés pour me racheter le livre à la fin. C'était traumatisé. Et voilà, donc il y a une technique. Hein. Donc voilà, tout le monde a à peu près le même nombre de pages. Voilà, et vous pouvez faire ça dans l'ordre, la restitution, ou dans le désordre. Peu importe, choisissez comment vous restituez. Mais voilà, il y a un temps, quoi. Chacun a 7 minutes pour restituer ses 30 pages. Donc il va choisir. Donc on aide, on donne une sorte de grille. Voilà, des forces de ton passage. Avec quoi tu es d'accord. Qu'est-ce qui fait résonance avec ton vécu. Tac, tac, et hop. 7 minutes. Donc chrono et tout, et puis ça tourne. Des fois, on est 30 à faire ça, donc c'est long. Ça, c'est quelque chose vraiment à développer entre vous, quoi, je pense. Sur, par exemple, des livres, vous savez, les livres que tout le monde met dans sa bibliographie, vous voyez, et que personne n'a envie de se taper en vrai. Ça, c'est vraiment la super, super technique pour ce genre de livre. Voilà. Des livres un peu comme ça, incontournables, ou alors des livres qui font polémique aussi, hein, des livres voilà, qui ne sont pas forcément de votre discipline, mais qui vont voilà, être un peu connexes, et du coup, ça c'est intéressant. Voilà, il y a plein de techniques, et ça se trouve, c'est sur les sites des scopes d'éducation populaire, il y a des revues. Qu'on peut imprimer, qui sont, enfin c'est du savoir qui circule, c'est du savoir qui, voilà, qu'on peut utiliser à outrance et c'est quelque chose d'intéressant même pour enseigner, quoi, vraiment. Moi ça m'a vraiment libérée et ça m'a même donné envie de donner des cours. Je l'avais pas fait donc pendant ma thèse, puis bon après j'ai fait des vacations parce que mais... et ça m'a libérée parce que mes premiers cours j'étais là, je lisais mes trucs. Voilà, j'essayais de rentrer dans une idée de ce que devait être un cours et de comment devait être un professeur. Et après, je me suis dit, n'importe quoi, j'ai pas fait tout ce travail. Il y a un moment, je me suis dit, non, je vais arriver à mon cours et puis je vais faire comme je fais avec le TAD, comme je fais dans ma conf. Je vais dire d'où je parle. Je dis d'où je parle. Ben voilà, je suis au chômage. J'ai même pas le droit d'être vacataire parce que je suis au chômage. Quand on n'a pas de travail, on n'a pas le droit de donner des cours à la fac. Donc je leur dis. Je leur dis, voilà, j'ai le droit parce que je suis intermittente. Donc je suis chômeuse, mais des annexes 8 et 10. Donc c'est possible. Mais en vrai, normalement, non. Et en fait, je vous donne des cours, je n'ai pas de contrat de travail. Je serai payée dans 8 mois. Je leur dis tout ça. Je fais pas genre, c'est génial. Je leur dis. Donc, voilà. Et pareil, par exemple, sur un cours qui s'appelle le PPP. Vous l'avez eu, ce cours? Mais à l'époque, ça n'existait pas. Projet professionnel personnalisé. Il y a 6 heures de cours. Donc, bien sûr, on me l'a refourgué parce que c'est le truc que personne ne veut faire à Montpellier. Et avec les ethnologues. Et du coup, j'ai appelé mon prédécesseur. Et du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, tu apprends à faire un CV, une lettre de motivation, répondre à un appel d'offres. J'ai dit, je sais pas faire ça. Enfin, si je réponds à des appels d'offres, je l'ai fait, mais j'ai dit, ça va être super mortel. Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai fait 6 heures sur la légitimité. Voilà. Et je leur ai fait ma conf, et je leur ai dit où est-ce que j'avais travaillé, parce que j'ai quand même travaillé en tant qu'ethnologue aussi. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'avant même de finir ma thèse, j'ai répondu à des appels d'offres et j'ai été prise. Forcément, j'étais la moins chère. Donc, ils n'avaient pas le choix. Mais voilà. Mais ça m'a permis de travailler pendant 7 ans comme ethnologue quand même. Donc voilà, je leur ai raconté tout ça. Et puis après, je les ai obligés à parler d'eux. À me dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous travaillez là-dessus? Et tous m'ont dit, j'ai rien à dire. Tous. Je sais rien faire, j'ai rien à dire. Première année de fac, hein, tous. Bon, on a travaillé, donc au final, ils ont tous dit quelque chose et ils avaient tous énormément de connaissances, déjà pour des premières années. Énormément d'idées, de recherches, déjà un regard, déjà de vouloir faire de l'ethnologie ou de la sociologie. Enfin, il y a déjà une envie déjà d'avoir un regard sur le monde. Donc. Et ils sont repartis de là. En mode, je suis légitime, je suis sociologue, et c'est parti, quoi. Voilà, donc il faut aussi du temps, des fois, moi j'ai mis 15 ans, à me sentir libre, de transmettre comme j'avais envie, et de parler de ma façon à moi de faire de l'ethnologie, puisque j'en ai une, forcément. Donc, dire, elle vaut, elle existe, et elle participe à tout ça, à la recherche aussi finalement, même si je suis en dehors du système universitaire.
Moi, ouais, je me reconnais beaucoup les choses que tu dis. Donc, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très riche et qui fait écho à plein de choses. Moi aussi, je fais l'anthropologie à la base, en Munich, où le système d'éducation est différent, où il y a à mon ressentiment beaucoup moins de hiérarchie entre l'intérieur de l'institut et l'institut. Et où aussi, c'était un autre moment de l'éducation, on va dire, qu'une thèse. Et à l'époque, c'était forcément des séminaires où tu es toujours à peu près avec les mêmes personnes et tu fais tes des groupes de travail pour rentrer dans un fonctionnement collectif de l'apprentissage. Où ça passe beaucoup par la discussion, par des petites étapes d'écriture, un lit l'autre, il y a beaucoup plus d'échanges. Ça peut être juste autour d'une bière le soir et on regarde la télé, mais l'anthropologie, la sociologie, c'est ça, ça fait écho, c'est une manière de voir le monde, de creuser, de chercher d'essayer à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et quand je suis allé en France, avec la thèse, c'est pas que la France, en Allemagne, ça aurait été pareil. Mais juste par exemple, le fait que chacun a fait une thèse sur un thème qui est très très spécialisé, entre parenthèses, qui représente un peu notre société, divisée au niveau du marché du travail et tout ça. Ça devient de plus en plus difficile à trouver du commun, à se comprendre, juste à comprendre qu'est-ce que fait l'autre déjà. Même s'il y a quelqu'un qui m'a dit, au bout de 6 mois, je l'ai à moitié oublié, parce que voilà, c'est comme ça, il y a trop d'informations et tout ça. Et donc, sur ce point, je trouve très impressionnant et chouette votre initiative de récréer un collectif qui s'appelle comment, TAD,
le terrain TAD, terrain à déminer.
À déminer, ok.
Et il y a un blog aussi. Ouais, mais on n'est pas très fort en com. On est vraiment des caracs, comme on dit. Non, on a du mal à communiquer. Mais il y a un blog. Terrain déminé. Je pense que vous pouvez trouver des choses, des photos, des petites vidéos.
Non, moi aussi, ça m'a beaucoup parlé, tant au niveau du parcours, parce que, alors je sais plus, j'ai vu ces chiffres-là il n'y a pas très longtemps, on est 2% de gens à avoir eu un bac techno à terminer en thèse. Donc voilà, et les 2%, donc on est dans une minorité qui gagne. Hein. Ce qui m'a questionné, c'est la porte d'entrée sur la question de la légitimité. Je vais partir un peu dans tous les sens parce que il y avait énormément de choses, c'est très très riche que tu nous as raconté. Et en fait, moi j'ai une expérience à la fois similaire et en même temps qui diffère parce que on a choisi quelques doctorants alors sur les mêmes bases de on se retrouve pas dans l'université, beaucoup de colère parce qu'on fait partie d'une génération où on a été formé politiquement au début des années 2000. Où la violence au quotidien, les guerres qui reviennent, etc., qui diffèrent. Et voilà, la répression, l'état d'urgence, voilà, c'était, tu parlais de petite histoire d'événements politiques qui marquent. Du coup, avant d'être en thèse, on s'est formé politiquement à ce moment-là. Et quand on est arrivé, on a découvert la sociologie sur à peu près le même truc que toi, on se rend compte de ah, mais les mécanismes, en fait, il y a des mécanismes de société, etc. Du coup, on est arrivé en thèse. Et là, c'était de la colère, beaucoup de colère, parce qu'on avait affaire à des gens qui étaient capables de décortiquer la société, mais qui n'étaient pas capables de la changer. Et donc, à un moment donné, on me disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont au courant de tout ce qui se passe, et il n'y en a aucun qui, au minimum, va dans une manifestation, ou se syndique, ou va changer l'état de l'université, par exemple, qui est dans un état catastrophique. Et du coup, on a monté un projet de recherche, avec zéro financement, des doctorants motivés, on a appelé ce projet de recherche Doc 2000, avec l'idée que, du coup, on fait peut-être partie, en tout cas c'est l'hypothèse, d'une génération qui a été formée politiquement au début des années 2000 et qui, du coup, aujourd'hui se retrouve à faire de la sociologie, à voir la sociologie et à voir le rôle du sociologue d'une manière particulière. Et donc, on travaille, la méthodologie innovante qu'on a, c'est les auto-entretiens en binôme. Avec l'idée de péter la frontière entre enquêteurs et enquêtés. Quand on fait des conférences, on essaie de casser au maximum d'un côté les gens qui font la conférence, de l'autre côté ceux qui écoutent, etc. Et en fait, notre délire, on va tellement loin dans notre délire que l'été dernier, on a eu une semi-plénière à l'AFS, donc à l'Association française de sociologie, où on a écrit à 11 notre intervention. On était 11 à la tribune. Les gens me trippaient un peu en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et le titre de la semi était « Comment devient-on chercheur critique ?» Évidemment, certains plus vieux titulaires sont arrivés en disant « On va aller casser des genoux à des doctorants qui vont essayer de nous expliquer ce que c'est d'être critique. » Ils sont ressortis, je cite, « bluffés » parce qu'on n'est pas allé avec le dos de la cuillère et qu'on a appelé à questionner le rôle politique du chercheur et à faire émerger la figure du chercheur collectif. Et qu'à un moment, et ça rejoint tout ce que tu disais sur l'archéologie, etc., cette idée que individuellement, on n'est finalement pas grand-chose, et tout ce qu'on sait, on le sait aussi parce qu'on a discuté pendant des heures avec les gens, etc., et qu'il n'y a aucune raison de mettre une frontière étanche entre ce qui se passe à l'université et entre eux. Du coup, ma question, j'y viens, j'étais un peu longue, je suis désolée, mais parce que c'est. Là, finalement, ça nous parle ce sentiment de légitimité et d'illégitimité, parce que dans le programme Doc 2000, on essaie du coup de comparer les générations, et bizarrement, les gens qui ont été recrutés et qui sont plus vieux ont eu le même sentiment d'illégitimité. Nous, on pensait que c'est parce qu'on a des parcours de bras cassés, qu'on n'a pas les capital qu'il faut, etc. Mais en fait, le système, et c'est là où je te rejoins, le système crée ces légitimité. Et donc, là où j'ai l'impression de ce que je comprends, vous avez choisi de vous écarter de l'université. Dans Doc 2000, peut-être que le parcours n'est pas le même puisqu'on reste à l'intérieur et on va aller questionner. Et après, on n'est pas encore recruté, on n'a pas encore publié des trucs avec Doc 2000. Pour l'instant, c'est qu'une petite initiative. Mais du coup, ma question, est-ce que vous avez quand terminé l'hypothèse tous, est-ce que vous avez essayé de rentrer? Et on a fermé la porte et on vous a dit non, on va faire sans vous. Est-ce que du coup vous avez acté le fait de lâcher l'affaire avec l'université et de dire nous en fait on a envie de faire autre chose, enfin, comment ça s'est posé ces débats de choisir finalement l'espace dans lequel tu interviens et du coup le statut, tu disais que tu étais intermittente, est-ce que c'est le cas de tous les gens qui sont à la CS?
Non, pas du tout.
Je suis désolée, j'ai été longue.
Non, c'est bien, c'est le concret de... Alors, non, moi j'ai demandé ma qualif quand même, tu vois, quand j'ai eu ma thèse, et je l'ai eue, et c'était il y a 4 ans, et donc c'est fini. Et j'ai jamais postulé nulle part parce qu'il n'y a pas de poste. Et il y avait 2 postes auxquels j'aurais pu, c'était à Brest, moi j'ai une famille à Montpellier. Alors, et je crois que je suis un peu dans le refus de parvenir aussi, hein. Je suis un peu dans cette posture de, bon ok la carrière c'est bien, mais je crois que c'est... Je suis ailleurs en fait, donc moi, je crée des choses là où je vis, etc. Donc je suis à fond dans mon environnement social, culturel, géographique, que je découvre. J'ai les Cévennes, la Camargue, je suis là, j'ai envie de travailler là. J'ai eu la chance de faire de l'ethnologie là où j'habitais. Donc ça c'était top, génial quoi. J'ai découvert du coup un pays. Bon, des fois c'est juste à côté de chez soi, forcément, enfin, ça, je ne comprends pas ça. Donc j'ai pas postulé, c'est-à-dire en 4 ans j'ai pas pu répondre à une annonce de poste qui me convenait. Donc, voilà, je sais pas si je vais redemander ma qualif que j'ai eue alors que tout le monde me disait tu l'auras jamais, hein. Donc bon. La qualification de thèse, ouais. Pour pouvoir postuler il faut d'abord être agréé quoi, pour postuler.
Voilà, le 4 ans.
Si jamais tu arrives, peut-être. C'est comme un concours, quoi. Comme un...
Voilà. Pour rebondir, tu disais qu'on t'aurait dit que tu ne l'aurais pas. Il y a des raisons, c'est pas... j'ai cru comprendre que c'était quasiment automatique d'être qualifié, non ? Pas du tout.
Des sections, en fait.
Ouais, non. Dans le TAD, on a été la moitié à être qualifié.
Mais du coup, vous en avez discuté collectivement?
Bien sûr. Oui, mais il y a eu des conflits très très forts sur notamment des membres de l'association qui justement étaient déjà dans l'université, qui étaient déjà vraiment intégrés dans l'université. Voilà, ouais, plus ou moins, mais qui enseignaient, qui étaient beaucoup plus que moi, par exemple. Je ne suis pas représentative de toute l'association. Et il y en a eu qui avaient peur de ce qu'on faisait, qui disait moi si y a des gens qui voient que je suis dans le TAD je vais être grillée au boulot. Alors que nous on disait, moi je pense au contraire que s'il y a des gens qui voient que tu fais ça, ça va plutôt t'aider à trouver un poste, parce que, et en fait c'était, il n'y avait pas de réponse à ça, ça dépend où tu es, sur qui tu tombes et dans quel labo. Mais effectivement on était une partie de l'asso à dire c'est un atout. C'est là, la fac, c'est mortifère. Il y a un moment où il y a besoin quoi, qu'il y ait des nouvelles énergies, des nouvelles façons de faire. Donc nous, on croyait en ça, en disant, il y a un moment où l'université va avoir besoin de ça, donc peut-être ils viendront nous chercher, je sais pas. Et les autres qui disaient, non, moi je veux mon poste, je veux ça, et je veux pas avoir d'embrouille, quoi, je veux pas... Donc il fallait pas qu'on mette leurs photos, qu'on faisait ça de façon anonyme, enfin voilà. Donc il y a vraiment eu 2 postures différentes au sein de l'asso, qui a fait conflit forcément. Sur le fait aussi de professionnaliser ce qu'on faisait ou d'en faire juste une pratique amateur pour des chercheurs qui ont un poste à côté. Voilà. Ceux qui disaient, moi je ne vais pas être chercheur, pas parce que je ne peux pas, mais parce que je n'ai pas envie en fait de rentrer à l'université, je n'ai pas envie d'être au CNRS, ça ne m'intéresse pas quoi. Enfin, en tout cas, ça ne me faisait pas rêver personnellement. Le salaire, oui, ça fait rêver, être fonctionnaire, salaire à vie, oui. Mais moi, j'avais une représentation très MMSHienne quoi, du truc, et ça ne me donne pas envie. Je me dis, je ne me vois pas venir tous les matins ici, manger dans cette cantine, et ça m'angoissait, quoi. Bon, ça, après, c'est mon problème, mais vraiment, j'avais j'ai pas eu envie de ça. Enseigner, oui, j'ai toujours enseigné, c'est clair. Je pense que je suis une très mauvaise chercheuse, en plus. Je pense que je serais meilleure prof que chercheuse, quoi. Donc, je pense que je fais de la bonne ethnographie, il n'y a pas de souci, mais voilà, écrire, j'y arrive plus, c'est clair. Depuis que j'ai fini ma thèse, je n'ai pas écrit un article. Je fais plein de com dans des colloques, mais je n'ai pas réussi à réécrire. Ça fait 4 ans, quoi. J'écris des trucs, mais pas des articles. Donc, ouais, c'est. Si je pouvais enseigner, ce serait super. Mais bon, voilà, même ça, c'est compliqué. Donc, il y a quand même des membres du TAD qui sont toujours dans cette idée d'intégrer, quoi, la grande famille de la recherche. Après, il y a donc une autre partie, donc, comme moi, qui a vraiment été dans des parcours alternatifs, on va dire, mais il y a aussi une autre partie qui fait de l'ethnologie ou de la sociologie en dehors de l'université. Donc, qui sont ethnologues dans des coms de coms, qui travaillent parfois avec l'office du tourisme, enfin, qui font des choses un peu comme ça, qui essaient de faire rentrer l'ethnologie, de lui donner une part propre, quoi, dans des secteurs culturels, touristiques, qui ne reconnaissent pas ça du tout. Donc, c'est du travail de fond. Il y en a qui ont monté leur boîte, voilà, qui répondent à des appels, des offres, etc. Moi, j'ai travaillé 7 ans dans une association avec laquelle j'ai répondu à des appels d'offres. Donc, voilà, j'ai travaillé 7 ans avec le musée Morin-Latin, qui est un musée ethnographique à Arles, qui est en pleine rénovation, donc c'était passionnant. Et là, c'est vrai que ça a été pour moi aussi quelque chose de très fort, parce que quand je suis arrivée en tant que prestataire dans ce musée, j'avais pas encore ma thèse.
Bonjour.
Ça m'était jamais arrivé ici à la MMSH, on m'a parlé d'égal à égal. Et comme à une adulte, j'avais quand même déjà 27 ans, hein, d'accord ? Mais on m'a pas parlé de vous, quoi. On m'a dit voilà, vous êtes ethnologue, c'est la première fois. On ne m'avait jamais dit ici que j'étais ethnologue. C'est moi qui m'auto-proclamais. Et voilà, j'étais l'ethnologue et je travaillais avec des gens et c'était professionnel et ça a été ma vraie formation d'ethnologue, ça a été dans ce musée. Ça n'a pas été pendant ma thèse au labo, quoi, ça c'est sûr. Ça a été de travailler en fait, tout de suite, de faire, d'être confronté à des vraies problématiques professionnelles. Voilà, ma recherche, il va falloir la muséographier, il va falloir. Donc voilà, c'était. Voilà, comment dire. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais il n'y a pas de rejet de l'université en tant que telle. Je pense qu'on a justement une grande idée de l'université. Je pense que moi j'ai aimé aller à l'université parce que c'était pas gagné que j'y aille dans ma vie, quoi. Donc pour moi ça a été une chance de pouvoir y aller. Pour ma famille c'était quelque chose de. Ah oui, super, l'université, quoi. Après, bon, ils ont plus dit ça. Ils m'ont dit, tu veux pas faire un vrai travail, aller au Galeries de Lafayette, à la FNAC, faire la caissière. Enfin, on m'a dit ça quand même, hein. Faire un vrai travail. Parce que... Donc, je pense que c'est parce qu'on a une grande idée de ce que pourrait être l'université, de ce qu'elle devrait être, justement, et qu'on est en colère, ou qu'on essaye d'avancer quand même ailleurs, quoi. Pour pas se faire mal aussi, parce qu'à un moment, on n'en peut plus, quoi, de se taper la tête contre un mur. Là. Donc, moi, ça m'a réconciliée, du coup, avec l'université et le fait de dire, bon, allez, j'arrête d'attendre quelque chose. Parce que finalement, on attend aussi, on est tout le temps dans cette attente, parce qu'on travaille, voilà, il y a ce, ah, mais quand même, j'ai un doctorat, il faudrait quand même qu'à un moment donné, l'université me renvoie un signe, hein, on est un peu dans cette attente-là. Et le fait de sortir de cette attente, de dire, bon, maintenant, je fais ce que j'ai à faire, je vais le faire, et peut-être un jour, l'université, j'y retournerai, et ce sera bien. Parce que je serais en paix avec ça, et j'aurais fait. Mais voilà. Donc, moi, j'ai moins de colère maintenant. Sauf quand je vais donner mes cours et que.
Et que
je suis pas payée, et que Pôle emploi me fait un contrôle, et que ouais. Bloque mes indemnités pendant 3 mois à cause de mes cours à la fac. Donc, ouais, là. Ouais, c'est dur. C'est dur. Et là, c'est pas la fac qui va me défendre, et. Ils n'ont rien à faire. Alors qu'ils étaient bien contents que j'aille donner les cours. Et puis quand on va donner les cours, il n'y a personne qui vous accueille, vous êtes vacataire, quoi. Donc vous avez rien, pas de place de parking, rien pour aller manger, vous savez même pas où sont les salles, où est le labo, quels sont les autres profs, rien.
Par rapport à la question du collectif qui est sorti, c'est aussi sur le travail ensemble, etc. Donc, bon, moi et lui-même, on avait mis, je ne sais pas si tu te rappelles, les ateliers des doctorants, où en fait, on se misait entre nous, on essayait de travailler collectivement, on avait des façons très institutionnelles. Mais cette question du collectif, elle va aussi sur la question du public, c'est-à-dire qu'effectivement, la recherche, déjà, pour dire seul, ça n'existe pas, parce qu'on est forcément obligé de se confronter avec d'autres pour avancer. Et après la restitution, alors que ce soit entre pairs ou un public plus large, quoi. Et je me demandais si ton expérience au TAL et après ce rapport à la création, à l'écriture aussi, c'était d'une part une émulation collective, mais qu'il y avait ce rapport à la création aussi, le rapport à l'émotion, à la restitution, c'est-à-dire de dérefroidir, réchauffer un peu la production scientifique et ce médium créatif ou artistique, ou comment le nommer, est-ce que c'est ça aussi qui motive pour restituer la recherche d'un point de vue plus sensitif,
En éducation populaire, ils appellent ça les savoirs froids et les savoirs chauds. Donc la conférence gesticulée, elle est définie comme ça, elle est définie comme le partage d'une expérience politique faite de savoirs froids et de savoirs chauds. Donc les savoirs froids, c'est un savoir sociologique, théorique. Et les savoirs chauds, c'est notre expérience politique. Et le contexte aussi dans lequel on apprend ces savoirs froids, finalement. Et comment on va rencontrer ces savoirs, pourquoi on va les chercher. Donc voilà, savoir froid, savoir chaud. Et sur le côté émotion, oui, là, on rentre dans des problématiques vraiment importantes pour le TAD, parce que, comme je vous disais, pour nous, pour la plupart d'entre nous, la rencontre des sciences sociales, ça a été une émotion politique. C'est-à-dire émotion politique au sens où on sortait de cours, on était comme des lions, quoi. On était on avait envie de parler des heures, on avait envie que tout le monde sache ce qu'on avait appris, quoi. Donc on était vraiment dans une émotion. Et c'est ça qu'on veut restituer. Et c'est toujours l'idée de quelle utilité ont les sciences sociales finalement, à quoi ça sert pour nous, ça doit servir. Ça doit servir à s'émanciper, quoi, collectivement, individuellement. Donc ça passe aussi par des médias comme ça. Ouais. L'émotion, c'est forcément. C'est pas forcément pleurer ou être dans du sensationnel. Hein. C'est vraiment essayer de créer des liens entre justement le savoir froid et le savoir chaud des gens. Leur dire en fait, vous avez déjà un savoir. Peut-être que vous ne savez pas quel mot mettre dessus, vous ne pourriez pas l'écrire, vous ne pourriez pas le définir, mais vous avez déjà ce savoir-là. Et alors, pour le coup, en sociologie, on l'a vraiment, quoi. Voilà, l'expérience de la domination, l'expérience de la reproduction sociale, on l'a tous. Donc, pour le coup...
Il y a pas artistique, là, dans la création.
Alors après, forcément, dans le TAD, on est plus ou moins sur différentes branches. Donc moi, je suis plutôt musicienne dans le TAD. Donc je me suis retrouvée à parler, mais à la base, je faisais plutôt de la musique. Il y en a qui sont plutôt plasticiens, donc qui ont créé les marionnettes, parce qu'on les a fabriquées nous-mêmes, nos marionnettes. Donc, il y en a qui ont adoré créer des marionnettes. Créer sa marionnette d'ethnologue colon avec le chapeau, c'est trop bon, quoi. Créer son patron avec une tête de loup et un chapeau de haute forme. Enfin, réfléchir à comment faire avec ses mains aussi, parce qu'on souffrait beaucoup de ça. Hein, d'être beaucoup. Moi, quand je faisais ma thèse, j'avais l'impression d'être un cerveau posé sur une chaise. Et d'ailleurs, je me suis cassé le genou après ma thèse, juste parce que j'ai sauté un feu de la Saint-Jean comme une bonne ethnologue, quoi, qui fait les rituels calendaires. Et mais je suis restée assise pendant 9 mois tous les jours, quoi. Il y en a qui arrivent à faire des footings et tout ça, moi j'arrivais pas. Donc, il y avait ce truc aussi de faire avec nos mains, quoi. Et quand on partait en anti-université d'été, on partait faire ça dans des fermes. Donc on observait le travail, on participait aussi à chaque fois, on avait une espèce d'échange aussi avec les gens qui nous accueillaient, on faisait des chantiers, voilà, on faisait de la technologie comme ça, quoi. Aussi en faisant, quoi. Donc ça nous donnait des idées de comment matérialiser tel concept. L'idée du jeu du Casso, ça nous est venu en jouant. Voilà, et on avait l'idée de faire un jeu de plateau. Donc il y a une autre fille dans le TAD qui crée des jeux de plateau comme ça, sur la gestion des déchets, par exemple. Et on s'est dit non, il faut qu'on marche, il faut qu'on jette des trucs, il faut que les gens ils soient dans le mouvement. Et donc on a fait ça à taille réelle, quoi. Et on y tient. C'est galère, du coup, il faut monter pendant des heures et tout. Mais on y tient, quoi. Parce que il y a besoin aussi de ça, quoi. On a fait aussi des films d'animation, on a dessiné beaucoup, donc il y a des gens qui sont plus dessinateurs. Donc oui, forcément, on a eu un besoin d'expression, de toute façon. Et moi, ce que je mets dans ma conférence, c'est tout ce que j'ai eu envie de dire et de faire pendant des années dans ces putains de séminaires avec des mecs où j'étais là, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, j'avais le cœur qui battait à 10 000 parce que j'avais envie de dire plein de trucs et que j'avais juste envie de me lever et dire waouh. Ça, et que je l'ai jamais fait, et du coup quand j'ai fait ma conf, c'est tout qui est sorti un peu comme ça, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un besoin d'expression très très fort.
Et vous étiez à combien en fait? Parce que nous, on a un peu sur
le TAD,
combien de personnes, oui. Quelle dynamique sociale
Alors le TAD, on est une dizaine, sans compter tous les gens avec qui on a travaillé. Donc graphistes, marionnettistes, crieurs, enfin tous ces gens, ces intervenants avec qui on fait ponctuellement des choses, ça monte à une vingtaine de personnes. Après, la difficulté, c'est qu'au départ, on était tous plus ou moins dans la même zone géographique, et puis bon, après, hein, les postes, les machins, la mobilité, hein, la valeur actuelle, la mobilité, c'est vraiment le truc, hein. Si vous n'êtes pas mobile, vous êtes un loser, si vous restez comme moi dans votre garrigue perdue. Donc maintenant, il y a à Lille, Paris, Nice, Marseille, Montpellier, Millau. C'est ça. Voilà. C'est principalement des femmes. Il y a qu'un gars.
Quoi ?
Enfin, il y a pas mal d'intervenants filles et garçons mélangés. Mais vraiment, le noyau du TAD, c'est les TADettes, on s'appelle. Il y a un TADette, il n'y en a qu'un. Il est à Marseille, c'est celui qui est à Marseille. Il s'appelle Julien Cordier et il fait de la bande dessinée, de la marionnette, puis d'animation. Il fait des collages aussi là, dans Marseille, du dessin. Et voilà. Et après, le TAD, c'est une ramification parce que du coup, beaucoup de gens se rencontrent dans nos anti-universités d'été. Là, on n'en fait plus depuis 2-3 ans parce que là, avec les enfants, tout ça, donc ça commence à être un peu compliqué, mais ça va revenir. Et donc, il y a des gens qui se sont rencontrés dans le TAD et qui continuent à travailler ensemble sur des projets extérieurs à notre asso. Donc, par exemple, sur la création de jeux de plateau, on a un collègue qui est graphiste, scénographe, etc., qui bosse à Paris avec une des TADettes. Julien, qui est donc le marionnettiste, dessinateur, illustrateur, lui, il a rencontré Tatiana, qui est écrivain, avec qui on a fait des ateliers d'écriture sur le travail à une époque. Et ils ont fait un travail d'écriture et de dessin dans un hôpital psychiatrique. Donc, c'est des livres qu'on trouve. Enfin, il y a pas mal de... Il y a Katia qui est à Millau, qui travaille donc en Aveyron et qui a fait plusieurs livres, plusieurs éditions avec le graphiste aussi en question. Voilà. Et moi, je travaille beaucoup avec Gérald, le crieur public, sur le projet de radio participative. Donc voilà, il y a beaucoup de ramifications au TAD. C'est 2002, hein, le TAD, donc c'est vieux. Il y a 15 ans. Depuis le temps, on a croisé pas mal de gens. Il y a très peu d'universitaires en poste, ouais, qui ont participé au TAD. Mais ils viennent voir, ils s'intéressent, ils connaissent. Bah, ils travaillent beaucoup. Hein. C'est vrai. Donc, Alors après, est-ce que c'est faire des sciences sociales? Est-ce que c'est faire de la science? Ça, c'est
C'est notre question. Et du coup, comment définir la science, etc. Quoi. Parce que c'est le titre du... Faire des sciences sociales autrement. Pour moi, c'est faire des sciences sociales autrement.
Du coup, vous écrivez pas du tout sur votre propre pratique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de vous observer, en train de faire. Ça serait possible aussi.
On a été tenté de le faire. On a proposé des coms collectives, des colloques, qui ont été refusés systématiquement.
Ouais.
On a proposé 3 fois, en fait. Ça a été refusé 3 fois.
Et c'est trop tôt.
Tu proposes aujourd'hui ça. Ah oui, maintenant c'est à la mode.
Ouais.
Nous, on était avant-gardistes. Mais, ouais, non, ça a été refusé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé, mais... de fait, moi dans ma compte j'en parle un peu quand même de ce qu'on a fait très rapidement, mais ouais, peut-être un jour un sociologue viendra nous enquêter et faire un article sur nous.
Parce que pour le coup, faire nous, c'est des trucs qu'on fait dans Doc 2000, toutes nos séances de travail elles sont enregistrées, donc pour la santé mentale de chacun, on va pas en transcrire. Mais un jour on pourra travailler sur ça. Et voilà comment un groupe de travail se construit, les dynamiques, tu parlais de dynamiques sociales qu'il pouvait y avoir entre les différentes personnes, le fait que, voilà, quelles sont les tâches que font les filles, puis après des questions, les tâches que font les filles, les garçons, les interactions, d'où les gens se connaissent, comment les projets. Je sais pas, il peut y avoir plein de trucs intéressants. Et là, du coup, ça serait beaucoup plus faire de la science, dans le sens où on est en train d'observer un truc qu'on produit. Et...
On a été tenté de faire ça, et puis on s'est empêché de le faire.
Après, c'est tombé aussi dans le nombrilisme et l'égocentrisme. Je m'observe moi-même, et c'est compliqué.
Ouais, et surtout que, justement, on s'est rendu compte, en créant le TAD et nos anti-universités d'été, qu'on était très sur nous, qu'on avait un langage à nous, puisqu'on allait dans des fermes, dans des chantiers, pour se faire accueillir, pour bosser. Et les gens me disaient, mais ça veut dire quoi? Mais on comprend rien, etc. etc. Donc on est plus parti dans, justement, se rendre compte, on a quand même fait de la réflexivité, puisqu'on dit, ah ouais, en fait, c'est vrai qu'on s'en rend plus compte, quoi, qu'on est dans notre milieu intellectuel, tout ça. Donc on a plutôt essayé de sortir de ça et de plutôt regarder les autres, essayer de pas. Mais oui, effectivement, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, c'est un boulot d'éducation populaire et c'est ce qu'a fait la SCOP Le Pavé. T'as suivi la dissolution du pavé.
Là, du coup, je sais que c'est terminé.
Ça fait plusieurs années, mais ils ont fait ça, justement, en faisant intervenir des sociologues. Ils ont fait une socio-analyse de leur structure, puisqu'ils étaient en fin de structure, de conflit. Ils ont dit, bon, on va pas juste arrêter, on va comprendre ce qui s'est passé. Donc ils ont bossé une semaine avec des sociologues, des réunions de travail, etc. Et ils ont écrit un manifeste de dissolution qui est le produit de cette socio-analyse. C'est exemplaire, c'est vraiment... il est en ligne, c'est le manifeste de dissolution du pavé. Ils l'ont envoyé à l'époque sur tous leurs contacts mail. Et moi je suis dans beaucoup d'associations, je suis pas mal en milieu associatif et... Je l'ai fait passer dans toutes mes assos, quoi. Disons, regardez ça. Ça, c'est un vrai travail de fond, politique, interne, qui utilise les outils de la sociologie. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que dans leur milieu ultra militant, la domination masculine, c'était le truc irréductible. Galérer avec ça. Donc, ce qui fait qu'il y a eu 3, donc ça a fait 3 scopes, et c'est pas vrai, exactement ça, mais c'est quand même ça. Il y a du coup la scope des filles et la scope des garçons. Ils ont créé 2, quoi. La trouvaille et le contre-pied. Et la trouvaille, voilà, c'est de la sociologie, ce qu'elles font. Elles ont fait un très très beau livre qui s'appelle Éducation populaire et féminisme. Et c'est de l'enquête. Et elles ont enquêté en fait sur le sexisme dans l'éducation populaire, dans les scopes d'éducation populaire. Et c'est de la sociologie, il y a de la théorie, il y a une bibliographie nickel, des superbes entretiens retranscrits, des extraits. Et c'est un très beau travail, vraiment. Donc ouais, ça, c'est vraiment
analyser sa pratique collective, ça fait partie du processus politique aussi.
Non, peut-être un dernier élément sur pour avoir un peu un regard, parce que vous avez commencé il y a 15 ans, avant de faire des interventions collectives, c'était pas possible. Nous, on est allé au bluff, la FS s'est passée, je savais même pas que c'est qu'il y avait des blocages. Du coup, pour réinscrire un peu ce processus-là sur un temps plus long, comment toi tu vois du coup, les évolutions, la place de la réflexivité dans la recherche, enfin, les trucs plus. Tu disais maintenant c'est à la mode, avant ça ne l'était pas. Revenir un peu sur les racines. Pourquoi c'est à la mode? Qui est-ce qui porte ça?
Je ne sais pas si c'est à la mode, mais en tout cas, la question se pose de plus en plus sur la restitution des sciences sociales, sur comment faire. Enfin voilà.
La question des médias aussi, c'est qu'il y a le numérique, les plateformes d'écriture, tous les blogs scientifiques, etc. Il y a toute une réflexion qui a été menée, je pense, en amont. Et puis, effectivement, la restitution du public, parce qu'il y a quand même une recherche financée. Par le haut et par les instances des questions sociales très vives en ce moment, je pense notamment aux questions de radicalisation, je suis sur l'islam en France, mais je pense qu'il y a la question, il y a un fossé de plus en plus loin, et on le voit avec les politiques, on le voit même du sociologisme, mais c'est tout ça en fait qui émerge aussi. Donc je pense qu'il y a aussi, et c'est pas des questions nouvelles, les sociologues et les anthropologues, avant c'était déjà posé la question, il y avait déjà des sociologues et des anthropologues qui ont fait des labos en dehors de l'institution, etc. Ces choses-là, elles sont hyper. C'est un renouvellement. Mais aujourd'hui, en tous les cas, il y a besoin de remettre sur la carte cette question de la place des sciences sociales dans la société, je pense.
Ouais. Et après, il y a aussi l'existence des disciplines en dehors de la recherche. Et elles sont de plus en plus appropriées par toutes sortes de métiers. Donc c'est aussi c'est ça qui est fou, c'est que il n'y a pas de métier, il n'y a pas de boulot pour les ethnologues, mais par contre plein de gens se mettent à se faire de l'ethnologie. Et donc quelque part c'est un peu voilà, c'est ambigu quoi. C'est en fait l'ethnologie ça plaît, mais pourquoi j'ai pas de boulot? Ah oui, mais parce qu'en fait il faut que j'en fasse, mais autrement. Et puis voilà. Et notamment dans justement l'écriture théâtrale. C'est la conférence gesticulée, c'est vraiment quelque chose d'assez marginal, mais c'est quand même révélateur des nouvelles écritures théâtrales, du réel, machin, et donc de l'autobiographie, tout ça, ça revient beaucoup, le récit de vie. Et il y a énormément de compagnies de théâtre maintenant qui font du travail ethnographique en amont de l'écriture de la travail. Donc moi, je me suis retrouvée à travailler avec une compagnie de théâtre pendant un an et demi pour faire de la musique. Composer et jouer de la musique. Mais c'était donc une compagnie conventionnée, scène nationale, etc. Et c'était une pièce de Brecht, donc Saint-Jean des Abattoirs. Bon, et ben pour monter Saint-Jean des Abattoirs, ils ont fait de l'observation aux abattoirs, ils sont allés rencontrer des travailleurs des abattoirs, après il y a la chaîne, hein, les ouvriers. Et c'était le processus d'écriture et de création, il est passé par des actes ethnographiques. Et donc, voilà, ça, je vois que dans le théâtre, en tout cas, c'est de plus en plus utilisé. Il y a aussi des ethnologues, du coup, qui font que du théâtre. Donc, par exemple, il y a le GDRA, c'est le groupe de recherche et d'action de Christophe Ruy, qui, du coup, est une compagnie conventionnée aussi, scène nationale. Donc, c'est un anthropologue et un danseur qui ont cette compagnie. C'est intéressant, c'est à voir, faut aimer quoi, mais voilà, ils ont fait ils ont une sorte de triptyque, ils ont un site, tout est expliqué, c'est un truc, voilà, c'est pas comme le taf quoi,
il y a le film de Céline Isnar sur le rapport entre recherche et association et collaboration, il y avait aussi un chercheur en poste qui travaille avec une compagnie théâtrale, et qu'on fait carrément un programme de recherche. Alors c'est rigolo, ici, parce qu'ils ont monté un collectif, en fait. Ou alors comment c'est ça? J'ai pas, malheureusement, je n'ai pas ici ma prise de notes. Et donc, en fait, l'ethnologue qui est en poste, hein, que je compte que au CNRS, et la présidente de la compagnie théâtrale, ont un nom. Et maintenant, ils présentent leur communication avec ce mix, ce nom, et voilà, et qui n'était pas.
Non, j'étais pas.
Mais alors, bon, ça doit être aussi de l'idéal, ça doit être retrouvé, ça doit se retrouver assez facilement. C'est Cyril Nisnard qui a organisé ce séminaire. Donc, théâtre, anthropo aussi. Mm-hmm. C'est intéressant parce qu'on a à la fois d'un côté un name dropping de plus en plus important avec des impact factors et cette... Non mais c'est aussi ça le... l'univers de travail dans lequel on est, voilà, on va être recruté en fonction d'un impact factor parce qu'on a été nommé. Et de l'autre côté, l'envie d'enlever son nom et de ne plus être un individu mais de faire partie d'un collectif. Enfin, en tout cas, je sais pas dans quelle mesure dans Doc 2000 on est représentatif de quoi que ce soit. Et je me garderai bien de dire qu'on est représentatif. Mais en tout cas, ça nous a plu d'arriver à la tribune et de ne pas être un plus un. Enfin, d'être nous.
Mais est-ce que dans Doc 2000, il y a cette production collective, mais parallèlement, chacun a ses recherches en propre aussi et puis lié avec son nom.
Ah oui, ben on a tous les arts.
Oui, mais donc il y a ça aussi, il y a cette coexistence-là, c'est pas se fondre complètement dans un collectif. Il y a
ah oui, non,
ça
non, non.
De recherche à côté qui coexiste.
Oui, ouais. tout à fait. Non, là on est tous, en plus sur des thématiques qui sont complètement différentes. Il y en a qui vont bosser sur la mafia, sur l'extrême droite, sur l'immigration, sur le dynamique urbaine dans la ville de Meaux. Enfin, il y a plein de... On ne parle pas le même langage, et en même temps, on se retrouvait derrière ce truc d'avoir envie de s'engager, d'être critique, d'utiliser la sociologie pour transformer le monde qui part en cacahuète. Et donc, du coup, je sais pas, je trouve qu'il y a une évolution, alors je ne sais pas si c'est une reconfiguration, si c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est compliqué de dire qu'il y a de la nouveauté quand on n'était pas là avant, mais en tout cas, il y a quelque chose de spécifique. Là. Et pour le coup, la présidente de l'AFS qui est venue nous écouter a été vraiment intéressée par la démarche et du coup, bon, étant qu'on y est, c'est la fête, on lui a proposé de coordonner un numéro de revue et ça a été, il faudra qu'on en rediscute, mais en tout cas, la porte elle n'est pas fermée, quoi. Alors qu'on est jusque des doctorants. Quoi. Donc, et ça revient à ce que tu disais au début,
ça jusque des doctorants.
Docteur, quoi.
Ouais. Mais n'empêche que quand je suis allée au Brésil dans ma fac là, à Recif, et que j'étais doctorante, on m'a fait doctorante. Mmh. Là, tu fais ah ouais, c'est vrai, je suis doctorante. Mmh. C'est pas doctorante, c'est doctorante.
C'est vrai qu'à l'étranger, c'est pas pareil.
C'est fou,
quand on est étudiant, qu'on arrive par exemple au Brésil, comme en Recif, etc., où j'étais aussi, de suite on devient chercheur, stagiaire. Dans un grand institut, etc., avec un bureau, avec tout ce qu'il faut pour bosser. Et on n'est plus le petit doctorant comme ça qui cherche sa légitimité. Mmh. La question de la légitimité, bon, en t'écoutant, et moi, vieille peau, en revoyant ce que c'était il y a 20 ans, c'est exactement la même. Tu crées Doc 2000 avec ce petit groupe comme ça pour taper du sucre sur ces vieux pontes, etc., qui se croient avoir tout trouvé, alors que finalement, bon, ben voilà. Toi, c'était il y a 15 ans, quand tu as commencé, où effectivement il manquait cette question de légitimité, et du coup, vous allez balancer avec un petit collectif pour expliquer à peu près ce qui se passe et comment on peut faire aussi les sciences sociales à côté de ces vieux qui nous apprennent la vie. Nous, il y a 20 ans, avec les personnes avec qui j'étais, on était confrontés à un problème qui était celui de publier. C'est-à-dire qu'on avait envie, nous, d'expliquer nos recherches et d'expliquer au monde entier ce qu'on avait fait, ce qu'on avait trouvé, etc. Sauf qu'on était autorisé à publier que lorsqu'on était connu. Et du coup, tant que tu ne publiais pas, tu n'étais pas connu, donc tu ne pouvais pas publier. Et c'est comme ça qu'on avait monté une revue, bon, c'était le début d'Internet, etc., qui s'appelait Esprit Critique, et où on récupérait les uns et les autres tous nos travaux de manière à les publier et à dire, bon, ben, la Revue Française de Sociologie, d'accord, mais nous aussi, on existe. Et ce que je me rends compte, c'est que, bon, toi, là, maintenant, tu vois, tu as la présidente de l'AFS qui te dit, eh oh, on peut monter un dossier, etc. C'est-à-dire que, quelque part, on tourne vers une forme d'institutionnalisation. Je suis sûre que tu présentes ton truc maintenant à la MMSH, peut-être. Eh ben, pourquoi pas, effectivement, on va te proposer de venir le présenter et du coup de rentrer dans le moule. Moi, au niveau de la revue, ce qui s'est fait, on a eu le gros bouleversement quand dans la revue, des gens ont demandé à l'intégrer et qui étaient des doyens d'université. Alors quand ça a été un doyen d'université du département de sociologie qui demande à rentrer dans la revue, alors qu'on était tous des copains comme ça à publier un peu tout et n'importe quoi, c'est là où on a commencé à devenir sérieux et on l'est encore 20 ans après. Toi, à partir du moment où tu dois, où on te propose, où tu as dans l'idée après de monter un numéro de revue, ben, finalement, c'est bon, tu rentres dans la légitimité et tu fais partie de la population des chercheurs qui font un boulot qui était peut-être un petit peu parallèle, mais dans lequel tu te retrouves comme tout le monde, quoi. Et je suis persuadée qu'effectivement, la conférence gesticulée, qui est une autre façon de faire des sciences sociales, ben oui, ça a maintenant tout à fait sa place. Ça l'avait peut-être pas tout il y a 10 ans, mais maintenant effectivement, c'est bon, quoi. C'est voilà, à la limite.
Elle n'est pas toujours bien reçue quand même. Hein.
Et puis, tu veux pas être chercheur, mais par exemple, au CNRS, il faut présenter des projets sur lesquels on réfléchit soit sur un concept ou en tous les cas on fasse avancer la discipline. Toi, tu aurais tout à fait un rapport sur la méthodologie, sur comment faire. Je serais le TAN. Peut-être que ça. J'en sais pas. Ça pourrait peut-être passer dans la façon de repenser la méthodologie.
Sûrement. Mais du coup, tu disais qu'elle n'était pas toujours bien reçue.
Non.
Et est-ce que tu peux nous dire
par bah justement, par les universitaires.
Justement, si je peux le dire. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. On est juste, on est que des doctorants. Ça veut dire derrière, on n'est rien du tout, on n'existe pas, on n'écoute pas. Donc on n'est pas reconnu, donc on va culpabiliser aussi par rapport à ça, bien évidemment. Alors, vous n'êtes pas juste des doctorants, vous êtes des chercheurs en formation, vous êtes des professionnels en formation. Et si vous voulez que les choses changent, faites comme Anaïs, soyez proactifs. Ça veut dire, n'attendez rien, parce que le système, l'institution ne vous donnera rien. Soyez proactif dans votre développement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soutenu son doctorat et puis elle s'est dit, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? C'est un moyen pour faire quelque chose. Elle avait une dimension créative évidente qu'on a vue aujourd'hui, qui est magique, phénoménale. Et vous pouvez être fiers de votre parcours, parce que démarrer secrétaire et arriver effectivement avec cette dimension positive, je n'ai rien contre les secrétaires. Mais c'est une autre démarche, c'est un autre chemin. Et c'est ce chemin-là qui a été magnifique pour Anaïs. C'est ce chemin-là, votre chemin à chacun, qu'il faut que vous suiviez. Soyez, si j'ai un message et je vais passer, je vais vous le balancer, mais alors chaque fois, soyez proactifs. Ce que vous voulez qu'il change, votre dimension dans le doc 2000, c'est génial. Amenez-le dans ce que vous faites. Portez-le, soyez porteur de ça. Et les changements, vous savez comment c'est la révolution? Ça se fait à petits pas. Vous êtes maître de votre chemin. C'est vous qui allez le faire. Mais c'est vrai, je suis quand même une vieille peau. Ça fait 20 ans que je suis docteur. Et bien, mon doctorat, il m'a permis de me dire, si je veux que les choses changent, et bien on les fait changer par soi-même. Et on est en réseau, on fonctionne en réseau, on fonctionne en collectif, on est internationaux. C'est comme ça qu'il faut que les choses changent. Je pense que c'est comme ça que les choses peuvent changer. N'attendez rien de l'institution. Sclérosé,
mais même là, il ne se passera rien.
Mais même dans l'institution, vous l'avez, vous pouvez être à l'école doctorale, vous pouvez être le droit de dans vos labos, vous pouvez être dans les conseils des laboratoires, bien évidemment, c'est comme ça que les choses changent.
Mais même à l'intérieur de l'institution, on peut. Moi, je me rappelle à l'idée même qu'il y avait eu un changement de direction, les doctorants n'avaient pas de salle, on avait obtenu une salle.
Bien évidemment.
Moi, je dirigeais des séminaires en tant que doctorante à l'idée même.
Voilà.
Il suffit juste d'oser, de demander à la direction. Alors, évidemment, on est arrivé avec un programme déjà détaillé, avec des invités potentiels, etc. Mais si on arrive, essayez, demander des sous pour une publication, etc. Au moins, essayez.
Et puis, même si elles existent, les barrières ne sont que celles que vous mettez vous. Voilà le message que je vous donne, je suis désolée, je vous en ai. Merci à la question.
Ciao, ciao.
Vas-y, tout. C'est à Sylvie qu'on a monté la co-tutelle à Récif. Qu'elle était aux relations internationales avant.
Ah ouais.
On a fini du coup, on a fini sur un débat réformisme dans l'évolution, ce qui est parfait. Hein. Est-ce que on va continuer ça ce midi en mangeant, si ça vous dit, de manière encore plus
informelle.